Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
La Fashion Week de Paris, de Milan, de New York, de Londres, les paillettes, les défilés, les belles tenues, c'est tout un monde qui fait rêver. Mais ce que j'aime, moi, c'est de savoir ce qui se passe derrière tout ce glam et ces paillettes et de connaître les backstage de tout ça. Nous sommes en pleine semaine de Fashion Week à Paris, ce qui tombe à pic parce qu'aujourd'hui, dans ce podcast, on accueille Léa, une personnelle shoppeuse qui habille de prestigieux clients depuis plus de 2 ans. Et vous n'êtes pas prêts pour ces anecdotes, je vous préviens, donc asseyez-vous confortablement et on commence de ce pas. Léa.
Salut Zozo.
Ça va.
Merci beaucoup de me recevoir.
Merci de venir dans mon podcast. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, comment tu t'appelles, ce que tu fais dans la vie?
Oui, carrément. Donc je m'appelle Léa. J'ai 21 ans. Donc on n'est pas si
ouais,
éloigné
en termes de...
Mais c'est drôle parce que du coup on a vraiment genre... Moi j'ai grandi en regardant tes vidéos que j'ai...
Ah c'est vrai?
Oui, parce que j'ai appris le français, c'est pas ma langue maternelle, et du coup ça m'aidait beaucoup de regarder des vidéos des youtubeuses françaises quoi.
Trop chouette, ça me fait trop plaisir.
Tu sais, on se voit évoluer un peu aussi à travers les autres quoi, l'exemple qui est cool. Ouais, fallait que je me présente.
Ouais. D'où vient ton accent déjà?
Purée de pommes de terre. mon père, il est anglais, enfin, il est britannique, Welsh, je sais pas comment on dit, gallois en fait.
Gallois.
Donc mon père est anglais et ma mère, elle est franco-allemande. Moi, j'ai grandi entre l'Allemagne, l'Angleterre et Paris.
Ok, donc hyper...
Où j'habite maintenant, ouais.
Trop bien. Et du coup, t'es personnelle shoppeuse, là, depuis 2 ans.
Exactement.
Et comment tu t'es retrouvée dans ce monde de la mode
C'est drôle cette question parce qu'on me la pose tout le temps et je sais pas quoi répondre, mais j'ai l'impression...
T'es née comme ça, que... t'étais déjà dedans.
Ouais, je suis née, j'avais une petite tenue Louis Vuitton. Et non, c'est faux. Donc, comment je suis entrée dans le monde de la mode? En fait, pour moi, on est tous un peu dans le monde de la mode. Mm-hmm. Tu vois, même les gens qui savent pas s'habiller, c'est comme... Tu es forcé d'être... En plus, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on est dans un monde un peu d'apparence. Et c'est cool aussi parce que tu vois les styles très différents, très divers des gens. Mais moi, ça m'a toujours passionnée. Quand j'étais gamine, à 6 ans, je lisais pas des BD, je lisais des Vogue.
Ah ouais?
Et genre, ouais. Et je découpais les tenues et tout. Et je scotchais avec... Ouais, c'est ridicule.
Je les scotchais
sur des grands cartons en papier plume.
Okay.
Et ma chambre, ça ressemblait à une espèce de cafarnaum avec des vêtements partout parce que je cousais aussi avec la vieille machine de ma grand-mère.
Je cousais des tenues,
mais horribles.
C'était un début.
C'était très laid, mais bon, c'est pas grave.
T'as un peu découvert ça à travers les magazines, ce que tu voyais autour de toi, etc.
Puis en fait, dans ma famille, c'est une famille très mixte en termes d'origine sociale. Mm-hmm. Voilà, mon père est issu un peu de la noblesse et ma mère est plutôt... entre la petite bourgeoisie et les ouvriers. Donc, c'est vrai que c'est des styles très différents. Ma grand-mère, elle habitait à Londres dans les années 70. C'était une des premières femmes à porter des pantalons en France.
Ah oui, c'est vrai.
Et je me souviens, mais ça, c'est mon cousin que j'ai revu il n'y a pas longtemps qui m'a rappelé ça. Il disait, en fait, quand il y avait des anniversaires, tout le monde venait te voir pour que tu choisisses dans la penderie ce qu'on allait mettre.
C'est vrai.
Et donc, tu faisais un peu la direction artistique de la famille, quoi.
Ah, mais j'adore.
Et après, je coiffais mes tantes, je les maquillais. Ouais.
Ah, j'adore.
Je faisais le vernis, j'ai eu ma période nail art.
Ah, moi, j'ai jamais réussi. Hein. Mes ongles, ils font 1 cm.
Ah, moi non plus. En plus, je me ronge les ongles, donc je vais dans un salon de coiffure, non, de manucure.
Ouais. Non, mais du coup, ok. Et donc, t'as commencé à faire des petites créations et tout à 6 ans. Et comment vraiment t'es rentrée? Comment ça s'est passé?
Ça s'est professionnalisé au moment où je faisais mes études. J'ai pas du tout fait d'études dans la mode.
Ok, t'as fait quoi?
J'ai fait des études de philo.
Ouais,
j'avais qu'une hâte, c'était de rentrer sur ma machine à coudre et de faire mes petits trucs moches.
J'adore, pendant que moi, je jouais à Animal Crossing sur la DS.
J'avais la DS, mais c'est ma mère qui jouait à ma DS.
T'avais pas la maison du style ou je sais pas quoi. Ah oui, bah voilà.
Léa, maison du style.
Je sais plus, ça s'appelait comment, mais oui, j'aimais trop aussi.
Et ça, et les Nintendogs, RIP, parce que je sais pas comment ils vont depuis, tu vois,
ils
mes Nintendogs.
Je pense que...
J'aimais trop jouer au frisbee avec le... Bon, bref. Voilà, et donc je fais mes études de philo et je suis repérée dans la rue et je deviens mannequin.
Ok. Donc t'as commencé d'abord par l'autre côté où tu portes les créations.
Ouais.
Okay.
Et c'est là que, en fait, je me suis rendu compte que bon, j'avais vu des trucs dans les magazines, mais je m'étais pas vraiment intéressée au métier de la mode. Parce que pour moi, j'allais faire de la philo, en fait. Mm. J'allais être prof de philo. Ou
oui, c'était juste une
faire
passion
de la recherche
à côté.
Et voilà. Et comme j'étais assez, pas intellectuelle, mais j'étais très, très scolaire, très, c'est hyper important pour moi les études. Et en fait, j'ai complètement vrillé avec le mannequinat. J'ai des problèmes de santé qu'on peut imaginer. Et donc, je me suis dit, mais j'ai quand même, en fait, envie de travailler dans la mode. Et je me dis, ça fait pas 10 ans que je fais, mes petits trucs dans mon coin, mes petits tableaux d'inspiration, mes petites créations pour rien, en fait. Mmh. Donc, à ce moment-là, j'ai 18 ans. Je viens d'arriver à Paris.
Donc, t'as déménagé tout seul à Paris?
Oui.
Pour la mode?
Oui.
J'avais pas peur.
J'avais pas d'argent, je connaissais personne, j'avais même pas d'appart.
Mais tu faisais comment au début?
J'ai dormi dans une synagogue.
Ah, oh, je suis. Et du coup, ça, en fait, c'est du bouche à oreille, c'est parti comme ça. T'as bien une première copine à ta maman et après.
Et après, les copines de ma maman parlaient à leurs copines. Okay. Et puis, pour trouver d'autres clients, j'allais dans les galeries Lafayette et je m'étais fait une petite carte.
Ah.
Tu vois, j'avais écouté, je crois, à 10 balles, je sais plus. Pour moi, 10 balles, c'était énorme.
Ah ouais.
Tu vois, t'as 19 ans, t'as pas de travail. Enfin, j'ai toujours eu plein de petits boulots, tu vois.
Oui, mais...
Bon, j'ai été stripteaseuse à Pigalle, j'ai tout fait. Hein. J'ai tout fait parce que moi,
pas
j'avais un
vivre,
rêve.
Quoi, parce que tu voulais, c'est ça, tu voulais financer ta passion, quoi.
Ouais, j'avais un rêve et j'achetais mes fringues à Emmaüs à 1,50€.
Et c'est quoi qui te plaît, toi, dans la mode le plus? Pourquoi ça te parle autant?
Moi, ce que j'aime dans la mode, c'est le côté empowerment.
Okay.
C'est-à-dire ce truc de voilà. Je peux avoir un trio poste. En ce moment, j'habille une ministre.
Ok.
Bon, je peux pas dire quel pays parce que c'est important pour moi la discrétion. Mais... J'ai des clauses dans mes contrats qui font que je ne peux pas révéler qui sont mes clients.
Mm-hmm.
Et je respecte ça un maximum. C'est aussi un... Bon, c'est une question
d'éthique.
C'est
normal aussi. Mm.
Voilà. Mais bon, j'habille cette ministre et en fait, cette femme... Elle ne sait pas s'habiller, personne ne lui a appris. Et donc, elle a un trio poste, mais on la prend moins au sérieux si elle s'habille comme toi et moi.
Mm.
Donc moi, mon job, ça va être de donner mon expertise, de prendre de mon temps pour elle aussi, parce que tu t'imagines bien que quand tu es ministre, tu as peu de temps pour aller faire ton petit shopping chez H&M.
C'est sûr.
Elle ne s'habille pas chez H&M.
Mais ça,
voilà. Donc, c'est par manque de temps, par manque de connaissances aussi, parce que, je pense aux personnes qui sont transclasses.
Mm.
Voilà, quand tu viens d'un milieu très modeste et que tu accèdes aux plus hautes sphères de la société et que les gens s'aperçoivent que tu n'as pas les codes, mais on te prend un peu pour un con.
Mm.
Donc, moi, mon job, c'est de valoriser ces gens, de valoriser leur image à travers mon expertise dans la mode, dans le vêtement, trouver des tenues adaptées à eux, à leur style, à leurs besoins, à leur envie, pour qu'ils se sentent en confiance.
C'est beau ce que tu dis.
Et voilà, parce que moi je pense qu'avec une bonne tenue, on peut changer le monde.
C'est vrai. Ça, tu devrais faire une citation là, sur un tableau et tout, t'écris ça.
Non, mais souvent que la mode, c'est un truc hyper superficiel.
Mm.
Moi, je suis convaincue de l'inverse.
C'est quoi, là, toi, ta journée type? Tu prends du temps pour toi? Comment explique-nous, là, genre demain
Donc, ma journée type, j'aurais dû regarder dans mon agenda.
Genre ça là, commence... ce matin, par exemple.
Ce matin, non, ce matin, c'est un mauvais exemple. J'ai fait que des bêtises, j'étais très stressée.
Ok, bon, bah alors...
On va dire, journée type, en mardi, je ne travaille pas le lundi parce que le lundi m'a toujours angoissée.
Ok.
Donc,
au moins, t'as ton propre patron, donc tu peux un peu décider.
Oui, toi aussi, tu sais ce que c'est, voilà. Mais je bosse quand même beaucoup.
Mm-hmm.
C'est juste que je choisis mes horaires, mais je bosse autant qu'un employé normal.
Oui.
Puisque je suis mon patron, mais aussi mon employé.
Ouais, c'est un peu bizarre.
C'est un peu bizarre, mais moi, je suis cadrée. Donc, je me lève assez tôt, 7h30, à peu près. Mm-hmm. Ouais, j'ai besoin. Je bouquine un peu ou j'écris un peu dans mon journal. Je suis assez organisée, j'ai besoin que tout soit carré. Donc, je vais checker mon agenda voir, bah, tiens, aujourd'hui, on a ça, ça, ça à faire. On a ça, ça, ça de prévu. Et aussi, il faut savoir que je n'ai pas de smartphone.
Ah oui, elle m'a montré son téléphone tout à l'heure. C'est les petits trucs Nokia. Je jouais avec ça quand j'avais genre 10 ans et que c'était les anciens portables à l'ancienne. Mais ouais. T'arrives quand même du coup à rester organisée. Comment tu vois ton planning et tout?
Bah, j'ai un agenda.
Ouais, donc t'es vraiment papier.
Avec un carnet et un répertoire dedans.
Ah, c'est bien.
Donc, ça me demande plus d'organisation. C'est vrai que c'est très simple avec un smartphone. Mais bref, donc je suis très organisée. Je regarde mon planning, je regarde mes mails sur l'ordi. Ensuite, je prends un café avec Dio et il me rappelle...
Qui est ton assistant, du coup.
Ouais, c'est ça. Et qui me dit, j'ai rappelé ceci, il faut envoyer un mail à ci, j'ai fait ci, j'ai fait ça. On fait un point, en fait, une espèce de mini-réunion. Moi, je déteste les réunions qui durent 3 heures, alors que ça pourrait être un mail.
Donc, tu m'as un petit café organisation.
Petit café orga, ou alors c'est au téléphone, parce que y a des moments aussi où j'ai besoin de me retrouver seule dans un parc et de bouquiner. Mm-hmm. J'anime aussi des ateliers de philo, des fois.
Okay.
Mais sinon, dans le personal shopping, ce que je fais le plus souvent, c'est la relation avec les clients. Ça veut dire faire des tableaux d'inspiration. Mm-hmm. Donc, sélectionner des looks qu'on a vus sur les tapis rouges, on nous envoie les catalogues, ou alors il y a des applications sur téléphone.
Donc si par exemple, là pour une personne, genre imagine moi je viens te voir, je te dis bon bah pour tel événement j'ai besoin de toi, je te briefe un peu sur ce que j'ai envie et toi après tu fais des trucs d'inspiration.
Ouais.
Ok.
Je marche par tableau d'inspiration, il y a une appli super qui s'appelle Vogue Runway.
Ok.
Et tu peux retrouver toutes les archives de toutes les collections présentées à la Fashion Week depuis 1992.
Ah oui, donc t'as de quoi faire quoi.
Voilà. Donc, moi, je m'occupe, ou alors je demande à quelqu'un de le faire, de filtrer. Tu veux une robe rouge? Je vais regarder. Bon, je sais que Schiaparelli et McQueen ont fait beaucoup de robes rouges. Alaïa aussi, dans les années 90-2000. C'était le grand boom d'Alaïa. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Bon, j'adore Alaïa. Bon, bref. Et du coup, moi, je vais me dire, bah, ok, je vais bosser Schiaparelli, McQueen, et je vais regarder toute leur collection.
Okay.
Tout. Je vais tout éplucher et je vais enregistrer les robes dans un tableau, dans cette même application. Et je vais appeler Schiaparelli. J'ai une liste de contacts dans chaque marque qui sont ce qu'on appelle des shopping assistants ou alors des concierges. Et par exemple, un concierge dans un grand magasin, enfin une grande boutique de luxe, c'est lui qui va se charger de faire acheminer les pièces. On organise aussi ce qu'on appelle des showrooms. Mmh. Un showroom, en fait, c'est on va louer une pièce, ou alors parfois c'est offert, dans les maisons de couture directement, dans leurs ateliers ou alors dans leurs boutiques, pour faire essayer à la cliente ou au client les tenues. Donc voilà, moi ça se passe en 3 temps. Premier temps, la prospection et l'organisation avec le client, donc ils remplissent des petits formulaires, on s'appelle pour définir un petit peu les besoins. Deuxième temps, moi, je vais faire la recherche des pièces parce que, bah, mettons, si la robe, la cliente, elle a flashé sur un ensemble, je vais te dire n'importe quoi, un ensemble Chloé de 1994, elle ne veut que ça. Bah, moi, il faut que j'appelle Chloé, mais la robe, elle a peut-être déjà été vendue.
Ouais.
Ils peuvent peut-être pas la refaire parce qu'ils ont perdu les patrons. Elle est peut-être pas du tout à sa taille. Donc, moi, mon boulot, c'est aussi de faire ce lien, en fait, avec les maisons de couture, pour leur demander des pièces pour les clients.
Okay.
Et ensuite, le troisième, ça va être le dernier rendez-vous avec les clientes, où soit j'achète pour elles et je leur livre, soit je leur montre en showroom et elles achètent directement dans la boutique.
Ok. Et pour avoir les contacts dans les maisons de luxe, du coup, t'as fait comment? T'es allée les voir? Bonjour.
Oh, tu sais, c'est très simple.
Ah ouais?
C'est très très simple. Oui, bah tu tournes, tu sais, dans les... Je sais pas, t'as déjà été sûrement en maison de luxe.
Ouais.
Et bah, tu vois les gens qui sont habillés de la maison et qui ont un petit badge et tu leur dis bonjour, je suis personal shopper, j'habille telle personne, réservez-moi un showroom ou alors montrez-moi des pièces avec cette taille, ceci, cela.
Okay, je pensais que c'était un truc hyper hype et tout qu'il fallait.
Non, même toi tu peux. Hein.
Ah ok.
Tu peux te réserver un showroom si ça te fait kiffer.
Ah bah hyper drôle.
Ou encore mieux, tu peux me... Non, je
te
peux
demander.
T'offrir... je peux grave t'offrir un accompagnement, ce serait très drôle.
J'avoue, Je vais avoir mon petit showroom avec Léa, elle va me conseiller sur les trucs.
Bah oui.
Et justement, on parlait, quand s'était appelé la première fois, tu m'avais un peu raconté que tu avais des petites anecdotes, des petits trucs drôles.
Ah oui, carrément.
C'est quoi la demande la plus chelou, la plus farfelue que tu as eue?
Franchement, assieds-toi bien et bois de l'eau. Parce que
attends,
là...
Je m'assois, assieds-vous. Je m'assieds bien.
Alors, plus farfelu, je me souviens une fois, alors je peux pas du tout divulguer les noms, l'origine, la ville où ça s'est passé, la marque, rien.
Ouais, ouais.
On était dans une boutique de robes de mariée avec une dame originaire de pays arabes. Donc pour moi, très, très pudique, très timide, très réservée, très voilà. Donc j'avais fait exprès de moi m'habiller de façon très couverte, de demander à ce qu'il n'y ait que des femmes dans la boutique, etc. Et on essaye des robes pour son mariage. Il faut savoir que dans la culture de ces pays-là, majoritairement, il faut plusieurs robes. Et on essaye la robe blanche. Et là, je m'aperçois qu'elle a ses règles, en fait, que c'est la même mauvaise période du mois. Ouais.
Oh mon Dieu.
Et attends, c'est pas fini. Et la robe blanche, et je vois le sang qui coule sur ses jambes et sur la robe. Une robe, je crois qu'elle était à 15, 20 000 euros.
Oh purée.
Et je me dis, oh purée, si la dame de la boutique, elle voit ça, laisse tomber, je finis en prison, en fait. Et du coup, je me rappelle de ma mère, quand j'avais eu mes premières règles, moi, j'étais tard, à 17 ans, qui m'avait dit, Léa, le sang sur les vêtements, ça part très facilement. Avec de l'eau froide, surtout pas chaude, ça fixe la tache. Voilà, vraiment la mère juive. Bon bref, de l'eau froide avec du savon et tu frottes ta race, quoi. On peut dire ça,
on peut. Oui, on peut tout dire.
Tu frottes ta race. Et donc, je mets de l'eau froide et je frotte ma race sur la robe toute neuve. Ça disparaît. Et là, on sortait de la manucure avec la cliente. Elle me dit, mais il faut que je mette un tampon. Et moi, dans ma tête, je suis en mode, oui, vas-y, j'en ai un dans mon sac. Elle me dit, non, non, mais tu peux me le mettre.
Pardon. Pourquoi vous ne voulez pas le mettre elle-même?
Elle voulait faire ses ongles, je sais pas, ou peut-être qu'elle avait quelqu'un, une servante qui lui mettait, j'en sais rien.
Ah ouais, donc ça t'étais là en mode...
Et du coup, je me souviendrai de ce jour toute ma vie. J'avais 19 ans, j'avais jamais mis un tampon à quelqu'un d'autre,
ah oui,
même à moi-même.
Oui, même dans la vie en général, tu mets pas des tampons aux autres, quoi.
Non. Et surtout quelqu'un qui pour moi a été... que j'idéalisais beaucoup de par son statut social et le fait qu'elle puisse se payer, on avait à peu près le même âge, une robe à 20 000 euros pour son mariage.
Ouais, donc...
Et donc je lui mets le tampon et j'ai du sang sur les doigts, tu sais.
Tu dis tellement de choses.
Je lui mets le tampon et là je me dis, mais c'est quoi ce boulot, quoi?
Ah ouais.
Franchement, j'étais à deux doigts d'aller élever des chèvres dans le Périgord, quoi.
Ah, je me suis dit, je peux pas. Tranquille. Ah ouais.
Ouais. Oh, un autre truc drôle qui m'est arrivé aussi.
Dis-moi tout.
Je sais pas si on en avait parlé. Un jour, je travaille aussi. Je sais plus si c'était au BHV, au Grand Marché. Ou non, c'était en Allemagne.
Ah.
C'était en Allemagne, mais c'était une Parisienne. Et bref, et là, un petit chien, tu sais, les petits chiens débiles, là, tout petits, qui ressemblent à des saucisses, là, tu vois.
Ah, les teckels, j'adore les teckels, moi. C'est
Il était tellement affreux, celui-là.
J'adore.
Et bon, bref, elle se promène partout avec son teckel, qui a un petit manteau matelassé rose fuchsia.
Ok, je vois l'idée.
Voilà, en mode Paris Hilton, qui mange chez Quick. Bref. Et genre, la meuf, là, elle me dit, est-ce que vous auriez de l'eau pour mon chien? Non, elle me dit juste de l'eau pour mon chien, en vrai.
Ah oui, donc pas du tout poli, pas
de l'eau pour mon chien. Et je lui ai dit oui, bien sûr, madame. Tenez, donc je sors l'eau du robinet, je la mets dans la bassine et je lui donne. Elle me dit mais il va pas boire ça, en fait. Je lui dis, tu veux quoi, de l'eau pétillante?
Du champagne.
Ouais. Et elle me dit non, mais il ne boit que de l'eau minérale. Et j'étais là.
Oh là là.
Quoi? Ton petit teckel là, il boit de la badoie? Et moi-même, je bois pas de la badoie.
Genre. J'avoue.
Elle n'a pas quitté la boutique. J'ai dû aller à Monoprix.
Oh.
Acheter, elle voulait pas me donner d'argent, bien sûr. Acheter moi-même une bouteille d'eau minérale pour son yinche.
Oh purée, ouais. C'est vraiment un autre monde, hein.
C'est un autre monde. Les riches, en fait, c'est ça le truc. C'est que les très riches, ils ont l'habitude que tout le monde soit à leur service.
Mm.
Et du coup, ils s'imaginent que tu peux répondre au téléphone à 3 heures du matin pour leur trouver des escarpins, quoi.
Ouais, c'est pas
et tu te dis, en fait, on ne sauve pas des vies.
Oui, c'est ça surtout. Le chien, si tu vas boire de l'eau du robinet, il va pas mourir. Hein.
Non, mais c'est clair.
Surtout dans les...
Bah, en fait, peut-être que si, parce que si elle lui donne de l'Evian depuis qu'il est né, bon, évidemment,
oui.
Tu vois.
Oui, mais bon, il y a un bout d'un moment, faut doser, madame.
Faut doser, ouais, faut aller boire du jus de carotte, quoi.
Ah, mais voilà. Ah, purée. Et t'as déjà eu des gens qui sont venus, qui t'ont dit, je voudrais ça, genre un truc, et tu t'es dit, mais trop bizarre. Genre des demandes, what the fuck.
Ah, oh, purée, oui. Ouais. Mais c'est aussi, ouais. C'est, en fait, c'est pas à moi directement, mais c'est moi qui l'ai vendu.
Ok.
Mon ex, c'est joaillier. Enfin, il travaillait dans une maison de haute joaillerie, je ne dirai pas laquelle, évidemment. Et donc, lui, il était au service après-vente. Et il s'agit d'un bijou ancien qui revient vachement à la mode, mais moi, je n'avais même pas connaissance. En fait, c'est un collier avec un petit pendentif, une petite rose, comme ça. Et quand tu le vois, tu te dis que c'est un collier normal. Mais en fait, il y a une petite chaîne qui descend jusque dans la culotte. Et quand...
Genre devant, genre.
Ouais, oui. Ou derrière, je sais pas, j'en sais rien, je sais pas, j'ai vu l'objet, mais j'ai pas essayé.
Ouais.
Et tu sais, quand tu tires sur ton petit pendentif, comme ça, eh bien, ça te masturbe, en fait.
Putain, mais quoi?
Donc, il y a une espèce de petite cage pour ta vulve ou ton clito, je sais pas. Et quand tu tires sur le pendentif de façon discrète, on dirait que tu joues avec ton collier comme tout le monde, bah, en fait, t'es en train de te toucher, quoi.
Ah, je suis choquée, je connaissais même pas les questions de ce truc en fait.
Non, mais.
Ah oui, il y a des trucs. Mais attends, la personne qui a inventé ça,
bah, c'est
qu'il y a de la demande en fait.
Ouais, ouais. Oh. Ah, mais moi j'étais choquée, j'ai vendu ça, j'étais là. Oh, ouais.
Ah ouais, puis...
C'est possible. Et du coup, après, j'étais matrixée dès que je voyais quelqu'un en train de se toucher.
Mais
son collier.
Jamais, tu sais que depuis tout à l'heure, je suis comme ça et tout. J'ai rien, je te jure. C'est vraiment un collier normal.
Ouais, Zoé.
Mais j'avoue, je vais grave faire gaffe aux gens comme ça maintenant.
Donc maintenant, dès que je vois quelqu'un avec un collier en pendentif, je me dis, oh, s'il faut. Pas du tout, tu vois, mais ouais.
Non, mais ouais. Ah, purée. Et t'as déjà des clients qui t'ont fait des caprices, genre qui t'ont trop mal parlé, qui...
Oh oui, mais ça, c'est tous les jours, j'ai l'habitude. Et moi, par contre, j'ai aussi un très mauvais caractère.
Tu leur réponds?
Oui.
Bah, t'as raison, en vrai. Y a pas
je
de
leur
raison
réponds. Je leur dis, écoutez, si vous ne me respectez pas, en me parlant comme ça, c'est que vous ne respectez pas mon travail, donc dehors. Je ne travaillerai plus avec vous, ce n'est plus la peine de me contacter si vous n'avez pas de respect pour mon travail et pour celui des gens avec qui je travaille aussi. C'est des heures de boulot que de vous sélectionner une tenue. Donc si vous n'avez pas la considération de au moins dire merci et de me parler correctement, la porte est juste là, je ne vous retiens pas.
T'as raison.
Très calmement, je ne les insulte pas parce que je reste professionnelle et courtoise. Mais à un moment donné, il faut savoir dire non, il faut savoir poser ses limites. Parce que sinon, tu n'y arrives pas, en fait. Mais ouais, en fait, moi, je suis pas n'importe qui. Personne n'est n'importe qui.
En fait, c'est ça, t'es quand même une humaine.
Personne
et...
ne mérite d'être traité comme on traiterait un chien, en fait. On est tous humains, on a tous droit au respect, à la bienveillance, à la courtoisie, à la politesse.
Non, mais t'as raison. Et parfois, l'argent, ça fait un peu perdre la tête aux gens.
C'est
ils
clair.
Se disent, oui, bon, bah, moi, j'en ai plein, je peux un peu tout me payer et je m'en fiche si je lui parle mal. Mais en fait, sans... Ces gens qui travaillent pour toi, t'es pas grand-chose, quoi.
C'est
donc
ça, c'est... pour qu'il y ait des très riches, il faut qu'il y ait des très pauvres.
C'est juste être bien éduqué, être bienveillant,
bien sûr.
Quoi.
Ouais,
mais
oui.
Si tu grandis direct dans un monde où tout le monde est riche, tout le monde se prend pour je sais pas qui, bah, tu peux vite tout oublier, en fait, qu'est-ce que c'est le vrai monde, quoi. Et
bah...
du coup, c'est bien, je trouve, que tu recadres tes clients qui te parlent trop mal et tout, parce qu'ils doivent se dire en mode « Ah oui, ça fait... » Enfin, des fois, les gens,
bah,
ils ont
les
peut-être
gens
tendance...
le font pas.
Ouais, c'est ça.
Les autres le font pas, et du coup, évidemment, ils... Ça leur fait pousser des ailes.
C'est ça.
Moi, c'est comme... C'est... Ah oui, j'ai une anecdote.
Ça, vas-y,
c'est...
vas-y.
Une fois, je suis au Bristol. Okay. Le Bristol en Palace. Et c'est la Fashion Week. Et je vais demander un briquet à quelqu'un. Et je lui parle normal. Je lui demande s'il est italien et tout. Il me dit, non, je suis espagnol, machin. Je lui dis, ah, tu fais quoi dans la vie et tout? T'es dans la mode ou dans la musique et tout? Il me dit, non, je suis acteur. Et je lui dis, ah, bah, désolé, j'ai jamais vu un de tes trucs, tu vois. Et je... C'est horrible. Et je lui demande, t'as joué dans quoi? Il me dit, Élite. Je fais, ah, j'aime pas trop, désolé, mais ma mère l'a regardé.
Oh mon Dieu.
Et il fait, ah, trop drôle et tout. Il commence à rigoler. Et là, je sors et je vois qu'il y a 80 personnes devant l'hôtel. Je leur demande qui ils attendent. Ils attendaient le mec.
Oh, purée. Mais tu vois aussi, c'est ça qui fait que t'es toi, quoi. Au moins, t'es toi-même.
Ah oui, moi, je suis naturelle. Je lui ai dit que je n'aimais pas ce qu'il faisait. Hein.
Ah, mais ah, donc tu voyais qui c'était
Ah non. Mais après, il m'a dit, je joue dans cette série-là.
Oh, Je suis morte de rire.
On dirait grave que je fais la meuf. Mais bah non, c'est juste après, que vraiment, je connais, enfin, je connais pas parce que j'ai un Nokia 3310, donc j'ai pas Netflix.
C'est ça, en fait. Mais c'est bien, tu vois, ça fait redescendre les personnes.
Mais ouais, et après, il m'a dit, mais en fait, ça m'a fait grave plaisir d'avoir enfin quelqu'un qui venait pas me parler parce que j'étais connue.
Mmh. Ouais, c'est ça.
Et c'est ça aussi, je pense que les gens apprécient, c'est ma discrétion. Mmh. Et le fait que je vais pas traiter différemment une étudiante en mode qui vient me poser des questions sur une tenue qu'une star que j'habille.
Ouais, c'est
je
vrai.
Traite tout le monde pareil, en tout cas j'essaie. Donc voilà.
Non, t'as raison.
Pour moi, c'est des gens qui vont aux toilettes comme toi.
C'est hein. Ça, hein. Pas tous aux toilettes, on est tous malades, on dort non, tous ouais. En train de ronfler.
C'est ça, certains dehors et certains dedans malheureusement. Voilà. Mais ouais, on est tous des êtres humains et il faut qu'on se traite comme ça.
Et ça n'a pas été dur de créer, parce que là tu me parlais que tu étais en relation avec des maisons de luxe et tout, de créer un peu ton portefeuille client, de trouver les contacts, même que tes clients à toi te trouvent et te demandent de l'aide.
Si, c'est toujours dur. Quand tu commences une activité, toi c'est différent parce que tu étais sur les réseaux sociaux, donc... C'est pas le portefeuille client, tu l'avais pas, mais l'audience, oui. Moi, j'avais pas d'audience, je connaissais personne à Paris, comme je t'ai dit. Hein. Mes parents sont pas du tout dans la mode. Mais par contre, l'avantage que j'ai, c'est que je viens d'un milieu assez favorisé. Mm-hmm. Et du coup, j'ai les codes des gens que j'habille. Et ça, c'est une grande force d'avoir des bonnes manières. Parce que même sans argent, tu as un patrimoine symbolique. Mm. Culturel qui fait que les gens se sentent en confiance avec toi parce que tu fais partie de leur monde, à leurs yeux. Donc, c'est des choix aussi. Comme je t'ai dit, j'ai habité pendant 2 ans dans une synagogue.
Ouais.
Parce que si j'avais 10 euros, je les dépensais à quoi ? J'allais au Plaza Athénée pour me prendre un expresso à 10 euros. Un expresso à 10 euros quand t'es pauvre.
Ouais.
Et je restais là-bas 3 heures et je discutais avec tout le monde, et je leur donnais ma carte. J'allais aux Galeries Lafayette, et je voyais une dame un peu perdue, et je lui disais... Je sélectionnais 3 pièces, je lui donnais, et je lui disais, essayez ça. Elle pensait que j'étais une vendeuse de la boutique. Pas du tout. Pas du tout, j'ai jamais bossé dans ce genre de boutique. Et à la fin, elle me dit, waouh, j'adore et tout. Et là, je leur donnais ma carte. Et c'est...
Ouais, donc ça s'est fait comme ça. C'est vraiment toi qui as provoqué en fait, le destin.
Ouais. Après, ça, c'était vraiment à mes débuts. Parce que j'étais... c'est pas que j'étais timide, mais j'avais pas de légitimité. À mes yeux, j'en ai toujours pas d'ailleurs. Bah. Même si mes clients sont très satisfaits, je reçois plein de messages. Et c'est ça qui me fait très plaisir aussi sur les réseaux sociaux. Soit des gens qui ont envie que je les habille, soit de gens que j'ai habillés qui sont hyper contents, qui m'envoient des photos dans les tenues.
Bah ouais, c'est trop bien.
Et c'est, ouais, tu me demandais ce que j'aime le plus dans mon métier. Je pense que c'est ça, si on me demandait.
Ouais, ouais. Que les gens, que t'aies des retours positifs et tu vois que ta tenue a créé un bon moment pour eux.
Et justement, au niveau du portefeuille client, moi j'essaye de m'adapter le plus possible à tous les budgets pour rendre ce service-là accessible.
Mmh. T'as tout type de clients, peu importe même l'âge, le métier.
Oui, après c'est vrai que justement j'essaye de développer un peu mes réseaux sociaux en ce moment, ce qui est compliqué étant donné que j'ai un Nokia 3310.
Oui. Mais c'est vrai que tu vois comment tu fais.
Mais heureusement, Dio m'aide beaucoup là-dedans parce que déjà lui il a un téléphone et puis surtout il a l'habitude, lui il vient de la musique.
Ok.
Et dans l'art en général, donc c'est vrai qu'il a plus l'habitude d'être sur les réseaux sociaux et de faire de la vidéo, tu vois, il faut filmer ses concerts, il faut machin. Donc je vais essayer de développer un peu ça, mes réseaux sociaux, pour travailler avec une clientèle peut-être plus jeune, parce que là, la moyenne d'âge de mes clients, c'est quand même 50-60 ans, quoi.
Ok, ouais, c'est des personnes plus âgées, plus posées dans la vie, installées dans la vie, ok.
Ouais.
C'est quoi ce que tu vois, nous, quand t'es pas trop du milieu de la mode ou juste quand t'aimes bien mais que t'es pas vraiment dedans, t'idéalises un peu le truc. C'est quoi les choses qu'on se doute pas qu'il y a dans le milieu de la mode tant qu'on n'y est pas vraiment rentré?
Ah ouais, ça c'est hyper intéressant comme question. Et pour ça, j'aimerais parler du travail d'une sociologue qui s'appelle Giulia Mencitieri. Mm-hmm. Je suis pas italienne, donc je prononce peut-être mal. Elle est sociologue et elle a travaillé sur la précarité dans le monde de la mode. En fait, ce qu'on ne s'imagine pas, c'est que les gens qui travaillent dans la mode sont souvent très pauvres.
Mmh.
On se dit, il y a beaucoup de paillettes. La meuf, elle a voilà, des sandales Hermès, elle a le dernier rouge à lèvres Louboutin. Ils sont très bien d'ailleurs, les rouges à lèvres Louboutin. Moi, j'ai le rococotte et je l'adore.
On note la ref.
Bon, bref. Non, mais voilà. Elle a ses sacs de luxe. Elle va dans ses grands hôtels pour boire des cocktails avec des gens très importants. Mais en fait, la meuf, quand elle rentre chez elle, elle habite dans un 9 mètres carrés à Pigalle et elle ne se fait même pas payer. La mode, l'industrie de la mode bénéficie et exploite des centaines et des centaines de personnes qui sont payées même pas au SMIC pour créer les collections. Et pour,
alors que sans eux, il y aurait
rien.
Il
y a des mannequins aujourd'hui, j'en connais beaucoup, parce que j'ai fait partie de ce milieu-là à un moment donné de ma vie, qui sont endettés auprès de leur agence et qui sont obligés de se tourner vers la prostitution. C'est Mara Lafontan, tu connais ou pas, qui en parlait et qui disait que bah, ces jeunes filles-là, en fait, au début, on leur paye tout. Tu sais, c'est comme une maison de disques. Les agences de mannequins avancent les frais de coiffeur, parce que bon, ils t'emmènent pas aux dealers du coin. Hein. Donc, c'est des coiffeurs qui peuvent coûter entre 300 et 500 euros.
Ouais, c'est pas
plus ça,
plaisir.
Plus les hôtels, plus les billets d'avion pour aller à Milan. Mais en fait, si tu bosses pas, ce qui est un peu de leur faute aussi, hein, tu leur dois beaucoup d'argent.
Oui,
il y a des filles qui sont endettées, des mannequins que tu vois défiler pour Prada, Louis Vuitton, etc. Ces filles-là, elles ont 18 ans, elles viennent d'arriver de Pologne et elles doivent 8000 euros à leur agence. Donc en fait, après le défilé, elles vont où? Elles vont dans un hôtel avec quelqu'un et elles se font payer.
Ah ouais, je suis choquée. Ah ouais, pas pour le coup.
Donc c'est vrai que le milieu de la mode fait rêver. Mais il ne faut pas oublier que, comme dans toute industrie, déjà, elle est contrôlée par des hommes.
Ouais, c'est horrible.
Et donc, les hommes n'hésitent pas à agresser, harceler, contrôler, manipuler les femmes, même si ces femmes-là leur permettent d'avoir la position qu'ils ont aujourd'hui. Ouais. Ils profitent de cette position, de ce rapport de force-là. Donc, effectivement, la mode, en fait, c'est pas tout rose. Je veux dire, comme tu disais au début, c'est des belles tenues, c'est des paillettes, c'est des stars. Oui.
Nous, on voit que la façade, en fait, mais derrière...
Oui, parce que c'est pour vous faire rêver, pour vous faire consommer.
Au final, on est des pions aussi. Hein.
Ouais, sans être complotiste, mais juste... Voilà, enfin, moi, mon métier, c'est de vendre du rêve. Moi, je vends une image, surtout une image... de la mode à la parisienne à la française, qui fait rêver des millions de gens dans le monde et qui les fait surtout dépenser de l'argent.
Ouais, mais c'est ça au final. L'argent.
Aujourd'hui, l'industrie du luxe en France, avec le tourisme, c'est celle qui nous rapporte le plus.
Ouais.
Et c'est pas pour rien. C'est parce qu'ils économisent en exploitant des dizaines de milliers de personnes.
Eh ben écoute, j'espère que toutes les personnes qui voulaient travailler dans la mode auront bien ça en tête. Mais c'est quand même cool.
Non, c'est cool.
C'est quand même
mais
un métier, mais
un autre message aussi que j'aimerais faire passer, si tu me laisses juste
bah
deux
oui,
minutes.
Bien sûr.
C'est que voilà, moi je suis arrivée à Paris, j'avais même pas assez pour me payer un café. Je squattais chez des potes, je dormais dans une synagogue, j'allais au Resto du Cœur, je m'habillais chez Emmaüs. Mais j'ai persévéré parce que j'y croyais. Et voilà, si t'as envie de faire de la musique, eh ben tu vas chez... Hier, on était chez Cash Express avec mon assistant, il essayait les guitares. Mais voilà, tu vas dans les bibliothèques et tu bookines. Si t'as pas l'argent, comme moi, pour te payer une école, j'ai pas fait une école à 10 000 balles parce que je pouvais pas me le payer et parce que je pensais que c'était un investissement débile, alors que je pouvais aller au Palais Galliera, regarder des collections et lire des bouquins. En fait, c'est à toi. Personne dans la vie va te prendre par la main pour te dire, fais ci, fais ça, bravo, c'est bien mon grand. Non. Il y a des gens qui ne parlent plus à leurs parents, il y a des gens qui les ont perdus aussi. Voilà, il y a des gens qui se font virer de chez eux parce qu'ils sont homosexuels. Bon, c'est encore aujourd'hui. Et en fait, si je vais avoir un seul message, c'est aussi un message à la moi il y a 10 ans, c'est de dire, ben voilà, regarde où t'en es arrivé aujourd'hui, c'est seulement par la force de ton travail.
C'est trop beau. Tu vas pleurer.
Donc, mais non, mais c'est la même chose
non,
pour toi, tu
vrai,
vois.
Oui, oui.
Quand t'as commencé à faire tes vidéos YouTube à 12 ans, est-ce que tu t'imaginais que t'interviewerais Ed Sheeran?
Ah bah non, bah jamais.
Et c'est pour ça que tu l'as fait.
Ouais, ouais.
Tu l'as fait avec innocence et avec plaisir et avec joie. Et parce que ça te plaisait. Et moi, c'est ça. Moi, j'ai fait de la mode parce que j'aimais ça.
Ouais, c'est ça.
Je
ne
me
la
suis
passion,
pas dit pour gagner de l'argent. Et d'ailleurs, j'en gagne très peu, crois-moi. Mais enfin, j'en gagne très peu. Je le réinvestis, je ne me paye pas. Mais ouais, en fait, il faut croire en soi. Si t'as pas besoin d'avoir les sacs Gucci, mon sac, je l'ai acheté à Emmaüs, à 6 balles, tu vois. Même ouais, encore aujourd'hui, alors que je gagne bien ma vie. Parce que voilà, si t'as besoin de... C'est comme Orelsan, tu vois.
Ouais.
T'as, si t'as envie de faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme.
Voilà.
Tu vois, non mais c'est ça,
non,
c'est un vrai message.
C'est vrai, c'est vrai.
Si t'as envie de faire un truc et que tu t'en donnes les moyens, tu réussiras tout dans la vie.
Ouais. Bah écoute, je suis trop contente qu'on finisse sur cette philosophie et ce message. J'espère qu'en tout cas, l'épisode vous aura plu si vous nous avez écoutés jusqu'au bout. Merci Léa d'être venue raconter tout ça. Et puis,
merci beaucoup Zoé de m'avoir reçue.
Bah, avec plaisir. Et puis n'oubliez pas qu'il y a un nouvel épisode de mon podcast toutes les semaines. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Cordialement, Zoé.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.